cours de philosophie première par le Père Marie Dominique Philippe, le 13 décembre 2001 à Saint-Judas.
Dans la recherche de la vérité pour la personne, quelle est la place du maître? Y a-t-il une tradition philosophique ou religieuse qui serait un guide, qui soit un guide dans la recherche de la vérité? Cela n'est-il pas important dans notre pratique? C'est très délicat, ça. C'est ce qu'on appelle l'école. L'école thomiste, l'école scotiste. Bon, ça existait dans les grandes lieux de l'enseignement à Salamanca. Je crois que c'est à Salamanca que ça a existé le mieux. Et j'ai connu le père Ramirez, qui était nommé grand recteur de Salamanca, et donc un grand d'Espagne, vraiment, digne d'un bagnès et tout cela. Alors, la tradition d'école, dedans, il y a beaucoup de répétiteurs, des gens qui répètent sans comprendre. C'est l'avantage de la tradition et c'est aussi l'inconvénient. C'est un avantage parce que ça canalise. On entend dans l'école et puis on obéit. Et bon, ça a marché. On peut dire jusque, peut-être, dans le siècle dernier, la moitié. Je crois que le grand changement pour moi, ça a été en 1950. Il y a eu comme ça, comme quelque chose de très curieux. Où il y avait encore une école avant, l'école thomiste, qui a été renouvelée par Léon XIII, avec le néo-thomisme, puisque c'est le néo qui renouvelle. Mais au fond, depuis, ça n'existe plus. Il y a quelque chose de nouveau. Sûrement, ça n'existe plus le point de vue de ce qu'on peut appeler une école. École dans le sens avec un grand T, hein. Oui, c'est la tradition. On suit un enseignement traditionnel. Ça a du bon et ça aussi, l'inconvénient, c'est qu'on répète beaucoup. Alors, répéter, c'est jamais bon. Intellectuellement, au point de vue religieux, ça peut aller. Parce que on a une tradition. La tradition, c'est... Alors, la tradition chrétienne, il y a en plus le Saint-Esprit qui est là et qui nous aide. Mais une tradition, c'est aussi comme ça. Ça a beaucoup de bon, mais il y a aussi beaucoup la répétition. C'est comme ça, c'est tout. On ne réfléchit pas très bien, on accepte. Il y a une obéissance. Vous voyez, l'obéissance est parfaite du côté moral, mais l'obéissance n'est pas parfaite du côté de la formation de l'intelligence. Mais, alors, l'obéissance du côté de l'intelligence, c'est la foi. On suit dans la foi, on accepte sans comprendre. Mais c'est une tradition avec un grand T. C'est l'Esprit Saint qui mène cette tradition. On garde la foi. Un petit T, c'est une tradition d'école. On dit ça et on répète. Oui. Alors, l'inconvénient, c'est que ça n'éveille pas beaucoup l'intelligence. Sûrement que depuis 1950, je mets ça comme date à peu près, parce que ça m'impressionne, 1950. Depuis 1950, il y a quelque chose de nouveau dans l'air. C'est que, je crois, l'école ne signifie plus grand-chose. Alors, ça a beaucoup de bon pour les gens intelligents qui peuvent trouver des maîtres, parce que l'école peut charrier des maîtres, mais aussi peut les étouffer. L'école passe avant le maître. Quand l'école disparaît, le maître réapparaît. Et le maître, c'est la providence qui permet qu'il y ait de temps en temps quelqu'un qui rappelle les choses essentielles, qui les rappelle non plus en s'appuyant sur la tradition, mais en revenant à la racine des choses et s'appuyant sur les principes. Au point de vue intellectuel, on découvre les principes. Les principes, ça nous éclaire. Quand on découvre un principe, on n'a plus besoin de la tradition. La découverte d'un principe éclaire. Je prends l'exemple, parce que pour moi, ça a été très significatif. L'exemple du point de vue de la causalité finale. Je reviens toujours là-dessus, parce que bon, la causalité finale, avec la scolastique et avec cette raison que je vous ai déjà donnée, un scotiste pris pour être un thomiste. C'est tout à fait une histoire de tradition. Hein. Alors, le scotiste dit la causalité finale est métaphorique. Ce scotiste pénétrant dans l'école thomiste, on suit ça. Et ça a été prouvé par une petite thèse de quelqu'un. Et l'école thomiste, même dans les très grandes écoles thomistes, comme Jean de Saint-Thomas, ont répété ça. Vous voyez ? Le pouvoir de l'école a fait qu'on a répété, alors qu'on aurait dû dire, mais non, la causalité finale est cause des causes, elle ne peut pas être cause métaphorique. Aristote affirme, alors au moins qu'on l'affirme au point de l'école, et qu'on essaie de comprendre que la causalité finale est cause des causes. Et donc, si vous dites que la causalité finale est métaphorique, vous supprimez la causalité. Puisqu'elle est cause et cause. Alors, si elle est métaphorique, toutes les causes et causes sont métaphoriques. Et quand on dit qu'elles sont métaphoriques, ça veut dire qu'elles sont poétiques, symboliques, qu'elles n'atteignent pas la réalité. Vous voyez ? Voyez la différence d'un raisonnement d'un avocat, d'un rhéteur, et le raisonnement d'un théologien et d'un philosophe. L'avocat, le rhéteur, s'appuie sur des signes qui sont très éloquents, des exemples, et on prend, à la place d'un principe, on prend l'exemple. L'exemple devient principe. Ça, on fait ça tout le temps. Quand vous lisez un article de journal, que vous lisez en critique, que vous lisez intelligemment, pas simplement comme celui qui suit son journal, et puis c'est tout, le journal a dit ça, bon, c'est vrai. Mais non, la presse ne dit pas la vérité. Elle ne la cherche pas beaucoup. Vous voyez ? Je vous ai dit, une fois, j'avais assisté à la conférence de Beuve-Méry. Beuve-Méry était le grand patron du journal Le Monde. Il a transformé Le Monde, le journal du monde. Boeuf Méry était venu à Fribourg faire une conférence sur la vérité. Alors quand j'ai su ça, je me suis mis au premier rang, juste en face de lui. Alors il a dû modifier certaines choses, je présume, n'est-ce pas ? Il a commencé à dire, dans ce lieu où les Dominicains enseignent la vérité, je dois vous parler de la vérité. Il a parlé de la vérité comme de la vérité du journaliste. C'était extrêmement éloquent à ce point de vue-là. Si j'avais eu la possibilité de le prendre, j'aurais pris entièrement au magnétophone. J'aurais eu. Parce que c'est ça. La vérité, c'est ce que tout le monde accepte. Alors, il y a un exemple du journaliste. Le journaliste est envoyé vérifier pour si c'est bien vrai ce qu'on dit sur tel événement. Le journaliste se fait une idée de la chose. Il réfléchit, il est envoyé pour ça. Donc il se fait une idée. Et puis il voit si cette idée est conforme à la réalité. Conforme à ce qui se passe. Vous voyez ? Genre de vérité. C'est pas du tout la vérité philosophique. C'est la vérité du journaliste. C'est-à-dire, le journaliste, s'il est très intelligent, il se fait une idée de la chose, et puis il vérifie. Il voit que c'est bien ça. Donc c'est une vérité rhétorique. C'est un peu de vérité. Et c'est ça, la vérité journaliste. Boeuf Méry avait la capacité de ça. Alors c'est très intéressant de voir ce que c'est que la vérité pour un journaliste dans un grand journal comme Le Monde. Mais c'est au fond former les gens à croire que ce qu'on dit, l'idée qu'on a de la chose, c'est ça la vérité. Vous voyez ? Ce n'est pas du tout regarder ce qui se passe et dire voilà ce qui est. C'est ce qu'on a pensé et dire ce qu'on a pensé est vrai. Alors, voyez, la tradition, elle porte, elle charrie certaines vérités. Tradition philosophique, l'aristotélisme. Tradition philosophique, le platonisme. Bon, deux grandes traditions. Et c'est très curieux que dans toutes les philosophies, vous trouverez ces deux grandes traditions. Dans l'Inde, vous trouvez les deux grandes traditions. La tradition du philosophe qui regarde l'expérience, la tradition du philosophe artiste, qui a des idées et qui comprend par ses idées ce qui se passe. Oui. Et à ce point de vue-là, c'est très intéressant. Parce qu'il y a vraiment deux grandes traditions philosophiques, l'aristotélisme et le platonisme. Alors, ce qui est très intéressant actuellement, mais ce qui complique tout, c'est que des gens comme Hegel s'appuient sur Aristote. Alors que Hegel serait beaucoup plus du côté de Platon. C'est l'idée qu'on se fait de la chose, qui commande tout. Ce n'est pas la réalité qui est, c'est l'idée. Oui. Alors, ça arrive constamment que l'aristotélisme, ou plus exactement, que le platonisme se met à embrasser l'aristotélisme. Et ça fait une jonction des deux. Il y a de l'aristotélisme. Hegel considère que Aristote, c'est le grand philosophe. Et si on suit Hegel, c'est du Platon. Hegel, c'est notre grand Platon. Je crois que ceux qui ont vécu après Aristote et qui avaient Platon qui était contemporain, un peu avant, mais contemporains encore vivants. En face de Platon, on devait être un peu aujourd'hui comme en face de Hegel. Une construction extraordinaire. Une construction magnifique. Et Platon, c'était la première grande construction philosophique, mais à base de l'idéa, ce qu'on avait compris, ce que Platon avait compris. Il avait tout construit en fonction de ça, en fonction de la fonction de l'idée du bien, de l'idée du beau, cause exemplaire, à la place de la cause finale. Tout Platon se comprend par la cause exemplaire. Tout Aristote se comprend par la cause finale. Alors là, vous avez deux sommets. Et au fond, ces deux sommets existent toujours. Hegel, le sommet, c'est la cause exemplaire. C'est l'idée. Il construit tout à partir de cela. L'aristotélisme, c'est pas l'idée, c'est ce qui est. On revient toujours à ce qui est, l'expérience de la réalité. Et vous cheminez à partir de ce qui est. On peut dire que ce sont les deux grands problèmes. Alors, vous voyez, la tradition aristotélicienne, elle a comme but de nous rendre fidèles à l'expérience. On est mené par l'expérience, par la réalité qui est. La tradition platonicienne a la cause exemplaire, l'idée. On a une idée. La métaphysique, c'est à la place que l'être qui existe soit mesure de mon intelligence, c'est le bien, l'amour que j'ai qui commande tout en fonction de ce que c'est pour moi. Alors, il y a deux traditions différentes. La tradition aristotélicienne, elle est faite pour qu'on soit respectueux de ce qui est, de ce qui existe, à tous les niveaux, au niveau sensible, au niveau imaginatif, au niveau intellectuel. On est respectueux de ça. Alors, la tradition vous rappelle ça tout le temps. Oui, la tradition aristotélicienne, elle est dans la réalité. C'est la réalité qui doit vous conduire. La tradition platonicienne, elle est dans l'idée de Platon. Et ceux qui comprennent cette idée-là, c'est une tradition artistique. Vous voyez, quand vous voyez une école artistique, vous, c'est bien ce point-là. Il y a un grand maître qui a des idées, et qui a des très belles idées, et qui a des idées sur tout. Platon a des idées sur tout. Et chaque livre de Platon est un monument. Chaque livre de Platon. Et c'est ça qui est si beau et si attrayant dans Platon. Et sera toujours très beau et attrayant jusqu'à la fin du monde. C'est beaucoup plus attrayant qu'Aristote. Quand on lit les deux, et c'est bon de lire à droite Aristote, à gauche Platon, et de lire les deux. Tous les deux, ça qui est très curieux. Tous les deux, ce sont des amoureux de l'âme. Tous les deux veulent défendre l'âme, la psyché. Et ça, c'est très intéressant pour nous, puisque aujourd'hui, la grande attaque, c'est l'existence de l'âme. Oui, on revient 2000 ans. Vrai. On revient sur l'existence de l'âme. Alors, c'est très important de comprendre la manière dont Platon défend l'existence de l'âme et la manière dont Aristote défend l'existence de l'âme. Tous les deux défendent l'existence de l'âme. Mais chez Platon, c'est l'idée de l'âme. Chez Aristote, c'est la psyché, principe réel du vivant, de l'homme. Vous voyez, la différence de Platon, c'est que tout est placé sur l'idée. Et Aristote s'est placé sur les principes. Alors, vous pourrez dire, oh, mais le principe et l'idée, c'est la même chose. Ah non. L'idée, c'est le philosophe et c'est l'artiste qui en est la source. Le principe, il est dans la réalité. Le principe philosophique, il est dans la réalité. Et je le découvre dans la réalité, par l'expérience. Par l'expérience, je découvre les principes propres qui commandent toute ma philosophie. Tandis que Platon, lui, c'est les idées. Alors, vous comprenez, dans la recherche de la vérité pour la personne, quelle est la place du maître? Alors, voyez Platon et Aristote. La place du maître pour Platon, c'est lui qui est la mesure de ses étudiants. Puisque le maître a saisi l'idée en soi, et que l'étudiant n'a pas encore saisi. Donc il doit être tout le temps relatif à son maître pour saisir l'idée telle que le maître l'a saisi. Chez Aristote, la réalité, c'est la mesure de mon intelligence. Ce n'est pas le maître. Le maître n'est pas mesure de mon intelligence. C'est la réalité qui existe. La personne humaine, qu'est-ce que c'est que la personne humaine? Qu'est-ce que c'est que la substance? Qu'est-ce que c'est que la finalité? La réalité. Le maître est fait pour expliquer, montrer la manière d'atteindre cela. Le maître, il s'efface devant la réalité. C'est la réalité qui parle. C'est la réalité intelligible qui mesure mon intelligence. La définition que saint Thomas donne de la vérité, c'est que ce qu'on conçoit soit conforme à ce qui est. Donc c'est ce qui est qui la mesure. Ce n'est pas l'intelligence du maître avec ses idées, c'est la réalité elle-même. Et donc, le maître est là pour conduire, mais pas pour être mesure. Alors que pour Platon, le maître est mesure. Dans la recherche de la réalité, pour la personne, quelle est la place du maître? Le maître est là pour rappeler constamment que tout ce qui est humain est personnel. Vraiment personnel. Mais tout ce qui est humain est personnel si c'est rattaché à la finalité. Quelque chose qui n'est pas rattaché à la finalité est vain, vanum, vain. Tout ce qui n'est pas finalisé est vain. Alors le maître est là pour vous rappeler tout le temps cela. Cherchez la finalité. Cherchez votre finalité, la finalité de votre intelligence. Et c'est dans la mesure où vous aurez saisi cela que vous serez vous-même libre. Parce que la vérité vous rendra libre. Y a-t-il une tradition philosophique ou religieuse qui serait un guide dans la recherche de la vérité? La tradition est vraiment un guide. La tradition aide pour ne pas faire de faux pas. C'est tellement difficile de chercher la vérité. On peut si facilement prendre un chemin de traverse, se tromper. Vous savez, quand il y a du brouillard, c'est comme ça qu'il arrive. On se conduit à peu près, on ne voit rien du tout. Et si facilement, on prend un chemin à droite, alors qu'il ne fallait pas prendre cela, qu'il fallait continuer tout droit. Alors la tradition est là pour nous aider, pour nous montrer les grands tournants. Et c'est vrai. La tradition aristotélicienne est faite pour nous montrer que l'expérience doit nous conduire à la découverte des principes. L'expérience n'est pas mesure, l'expérience est signe, ça nous aide, elle doit nous conduire à la recherche des principes. Seuls les principes peuvent être mesure de mon intelligence. Et on a les quatre principes, ou les cinq principes, matériels, formels, efficients, final et exemplaires. Donc chercher principes. Et toute la philosophie, c'est la recherche des principes. Alors le principe, vous n'en avez pas l'expérience. Alors quand vous dites la philosophie d'Aristote, c'est la philosophie d'expérience. Attention, c'est la philosophie d'expérience comme point de départ. L'expérience comme point de départ. Le point de départ, c'est toujours l'expérience. Mais je cherche le bien de mon intelligence. Et le bien de mon intelligence, ce n'est pas l'expérience, c'est le principe. Celui qui est dans l'expérience, tout le temps de l'expérience, n'a pas de principe. Les principes, l'expérience est différente selon les époques. Ce serait intéressant, du reste, de voir ça. Dans telle époque, c'est telle expérience qui domine. Dans l'expérience actuelle, qu'est-ce qui domine? L'expérience intérieure, psychologique. Ça, on adore l'expérience psychologique. On dit, oh, on ne peut pas aller contre. Mais pas du tout l'expérience psychologique. Elle dépend énormément de votre imagination. Votre imagination joue un rôle capital dans votre expérience intérieure. Vous voyez ? Et ce n'est pas la réalité. Quand vous êtes agité, l'imagination se remue dans tous les sens et vous devez maintenir ça. Que l'imagination est très fertile, mais elle est la folle du logis. C'est pas bête d'avoir dit l'intelligence est la folle du logis. Et c'est vrai. Alors aujourd'hui, l'expérience et tout, mais l'expérience aujourd'hui est à base constamment d'imagination. Et alors elle est la folle du logis. C'est pas l'expérience qui est ma mesure. L'expérience est un point de départ. L'expérience est un signe qui m'alerte, qui m'éveille. Quand j'ai une belle expérience, ça m'éveille. Et je cherche, à partir de là, comment expliquer cette expérience. Quelle est la finalité, le sens profond de cette expérience humaine? Vous voyez, quand, par exemple, pour la formation de l'Europe, on interdit d'employer le terme religieux. On doit chercher pourquoi on fait ça. On est en face d'un fait, interdiction du point de vue religieux. Alors on dit religieux parce que ça vous met en état de dépendance à l'égard de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais rencontré Dieu. Or, tant que vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne pouvez pas dire qu'il existe. Vous avez donc là un pragmatisme forcené. Il y a des quantités de réalités auxquelles vous adhérez et que vous n'avez jamais vues. La vérité, est-ce que vous l'avez vue? Vous pouvez faire des tableaux de la vérité, des statues de la vérité, mais c'est pas la vérité, ça. C'est une statue de la vérité. La vérité. Il y a des quantités de choses. L'amour. Ah, l'amour, je l'expérimente. C'est vrai, mais... L'amitié. Ah, j'expérimente. Très bien. Mais la cause de l'amitié. Pourquoi vous êtes pris par ça? Vous aimez quelqu'un? Vous voyez? Il faut bien saisir le point de départ et la différence du principe. Ce qu'on saisit par l'intelligence et de saisir que la recherche de la finalité est capitale pour le point de vue pratique. Autre chose, ce qui produit de la pensée comme les mathématiques, donne-t-il de l'être? Peut-on dire un être mathématique? Alors là, c'est tout le domaine mathématique. Je vous ai déjà dit, je vais au Saulchoir, le père Gérard Deslauriers, qui était un matheux merveilleux, et on discutait toujours ensemble sur l'être mathématique. Il a du reste écrit un article très calé sur l'être mathématique. Qu'est-ce que c'est que l'être mathématique? L'être mathématique n'est pas l'être imaginaire. Quand vous avez une imagination splendide, vous savez ce que c'est? Vous dites, cette imagination. Quand vous avez la réalité existante, vous dites que c'est le réel. L'être mathématique, qu'est-ce qu'il est? Il n'est ni l'imagination, ni l'être réel. Mais il est un peu des deux. L'être mathématique se fonde sur la quantité. Mais une quantité qui est assumée par l'intelligence, qui est pensée par l'intelligence, le divisible. Et l'être mathématique demeure dans le divisible. Alors, l'être mathématique implique l'imagination, c'est sûr. C'est pour ça que c'est connu, on a des intuitions mathématiques jusque 45 ans. Après, on n'en a plus. Paraît-il. Hein. L'imagination est fertile. La jeune imagination. L'imagination est moins fertile chez un vieillard. C'est la mémoire. C'est ce qui a été dans le passé. Chez un jeune, c'est demain. Dans le langage, c'est tout à fait ça. Un enfant, un gosse, il parle toujours de demain. Demain, ça. Un vieillard, ça a été comme ça. Mais il y a le passé qui sert de mesure. Et on vieillit dans la mesure où le passé sert de mesure. Et l'enfant, au contraire, ah, c'est demain. Demain, ce sera splendide. Demain, ce sera le paradis. Et le jeune homme, il est mélangé des deux. C'est assez sûr. Alors l'être mathématique joue entre l'être romantique, poétique, le poète, et l'être métaphysique. Il est entre les deux. Et c'est pour ça qu'il est si important. C'est un mitaxu. C'est le divisible. Le divisible, c'est l'être mathématique. Le divisible n'est pas divisé. Il peut être divisé. Et l'être mathématique est toujours potentiel. Il est actuel par la division. C'est l'homme qui rend l'être mathématique actuel. C'est pour ça que les mathématiques ont ce pouvoir extraordinaire sur l'homme, parce qu'il l'actue. Il y a quelque chose d'analogue avec l'artiste. Quelque chose d'analogue, mais ce n'est pas l'artiste. Un artiste est agacé par l'être mathématique. Parce que l'être mathématique est rougeux, le divisible. Et l'être de l'artiste, la fantasia, hein, qui doit aller au-devant, quelque chose qu'on pourrait faire, quelque chose qui naît à partir de la réalité, mais qui implique le point de vue de la lumière pour le peintre, de chaque art comme ça, ce qui actue son être poétique, son être artistique. Tandis que l'être mathématique, il est actué par l'intelligence du mathématicien, qui demeure dans le divisible, toujours. Donc, les mathématiques ont un fondement lointain, pas direct. Le fondement direct des mathématiques, c'est l'intelligence du mathématicien. Le mathématicien a la joie de créer l'être mathématique. Et il le crée en l'actuant. Mais l'être mathématique a un fondement dans la réalité, le divisible, lointain. Et il est actué par l'intelligence du mathématicien. Donc il le fait, il est le maître de l'être mathématique, il en est la source. C'est pour ça qu'il a une telle joie. Alors, mon père, bonjour. Je salue. Le cours de métaphysique d'hier matin était super, très bien. Et cependant, j'ai deux questions. Quelle est la finalité de la personne? Est-ce la recherche de la vérité ou l'amitié? Pourquoi opposer les deux? La personne, j'ai dit, c'est le pos de l'homme. J'agis personnellement, comme une personne consciente et intelligente, comme une personne aimant, comme une personne qui sait sa responsabilité et qui essaie de comprendre ce qu'il doit faire. Et si j'analyse ce comment de la personne, je vois qu'il implique l'autonomie, l'intelligence, la volonté, l'amour, la prudence, la possibilité de faire quelque chose et le conditionnement du corps. Je suis conditionné par mon corps. C'est pour ça que je ne peux pas imaginer un monde absolument parfait, ce que je voudrais. Mais le corps est là, qui conditionne constamment mon activité. Pas qu'il le finalise, qu'il le conditionne. Et il y a un moment, quand la vitalité n'est plus assez forte, le conditionnement devient la finalité. C'est ce qui existe actuellement en politique française. Parce que je ne peux pas parler d'autre politique. C'est quelque chose de viscéral, l'aspect politique. On peut parler de la politique de son pays, parce qu'on est dedans, parce qu'on est citoyen. Mais quelqu'un qui parle de la politique étrangère, attention, il peut donner des aspects de critique, mais seulement des aspects, pas plus. Alors, quelle est la finalité de la personne? Vous comprenez que la personne, c'est un pos, un comment, une manière d'être. La finalité vous vient de l'intelligence et de la volonté. Et l'intelligence et la volonté sont présents dans le pos de la personne. Mais le pos de la personne ne me donne pas ma finalité. Ma finalité, elle vient de ma nature d'homme intelligent. C'est donc la possibilité de la recherche de la vérité et c'est la possibilité d'aimer quelqu'un. Un autre être humain ou Dieu. Mais ce n'est pas ma personne qui me donne la finalité. Parce que c'est le pot, c'est le comment. Le comment présuppose la recherche de la finalité de mon intelligence et la finalité de mon cœur. Je n'ai pas de finalité au niveau sensible, si ce n'est le point de vue de la procréation. Qui est une finalité au niveau vivégétatif. Donc, vous voyez, la finalité se prend du côté des principes. Je découvre la finalité au niveau du principe. La cause finale, c'est un principe. Et la cause formelle me met sur le sentier. Elle n'est pas causalité finale. C'est pas parce que je peux penser que je suis vrai. J'ai des pensées qui ne sont pas vraies, qui sont fausses, qui sont à côté. Alors, ma manière de penser personnelle me montre comment ma finalité est vécue. Comment un religieux vit de sa finalité. Il la vit autrement qu'un homme marié. Vous voyez, le comment. Ils ont même nature, donc ils auront même finalité, mais une façon différente de la vivre. Parce que un homme philosophe vivra sa finalité autrement qu'un homme non-philosophe. Parce que le philosophe sera conscient de la manière dont il la vit, et l'homme non-philosophe n'en sera pas conscient. Or, être conscient de la manière de vivre sa finalité, ça fait partie de la personne. Si vous n'êtes pas conscient de la manière de vivre votre finalité, je ne peux pas dire que vous êtes une personne. C'est pour ça que l'aimant connaissance fait partie essentielle de la personne. Tout ce que vous faites instinctivement n'est pas personnel. C'est instinctif. Quand quelqu'un dit « Oh, excusez-moi, j'ai été élevé comme ça », vous répondrez « Vous avez été élevé comme ça, est-ce que c'est une manière humaine ou est-ce que ce n'est pas une manière humaine ? Votre éducation a-t-elle été bonne ou mauvaise ?» Et vous la jugez en fonction de la finalité. Votre éducation vous a-t-elle permis d'atteindre votre finalité ou au contraire vous interdit de l'atteindre ? Elle est un obstacle constant. Donc vous voyez, il faut bien voir que la finalité est principe. Donc le comment ne fait pas atteindre le principe. Le comment, c'est une manière particulière de vivre des principes. Une manière particulière de vivre dans mon intelligence, une manière particulière de vivre dans mon amour. Donc, je peux dire que la vérité est fin de mon intelligence et l'amitié est fin de ma volonté. Et ma manière de le vivre, ce sera une manière personnelle. Je peux rechercher la vérité d'une manière qui ne soit pas personnelle. C'est-à-dire, quelqu'un qui se laisse mener par un autre, qui se laisse mener par l'opinion courante. Aujourd'hui, il fait bien de dire que Dieu n'existe pas. Affirmer cela est contraire à votre personnalité, bien que ce soit la mode. Donc, vous voyez, bien distinguer la différence d'une activité personnelle, elle doit être vraie. Tout ce qui n'est pas vrai n'est pas personnel. Quand je dis que l'intelligence est un élément essentiel de la personne, je dis par le fait même que tout ce qui n'est pas vrai dans ma vie n'est pas personnel. C'est passionné. Agir passionnément, est-ce que c'est personnel ? Non. Ce n'est pas personnel. C'est agir selon mes passions, c'est-à-dire selon la concupiscence. Et agir selon ses passions, c'est infra-personnel. Ce n'est pas personnel. Pour que ce soit personnel, il faut que ce soit conscient et que ce soit selon ma finalité. Tout ce qui n'est pas selon ma finalité n'est pas personnel. Un gouvernement qui interdit le point de vue religieux est antipersonnel et rabat l'homme à des conditions de vie qui ne sont plus personnelles. Oui, c'est ça l'intérêt de cette étude que nous faisons. Quels sont les éléments qui constituent un acte personnel ? Tout acte personnel doit être conscient. Il faut que l'intelligence soit présente. Si l'intelligence n'est pas présente, ce n'est pas personnel. Un tic n'est pas personnel. Vivre selon la majorité, est-ce que c'est personnel ? Pas forcément. si cette majorité est consciente d'être selon la finalité propre de l'homme, alors je me laisse porter par la majorité. C'est pas très personnel pour moi. Je suis comme un enfant qui obéit à ce qu'on fait. C'est en ce sens-là qu'il y a très peu de gestes vraiment personnels dans une humanité comme la nôtre. Il y a des quantités de gens qui sont le troupeau et qui n'ont pas réfléchi si c'était personnel ou pas personnel. Si c'est contraire à votre finalité, ça ne peut pas être personnel. Si c'est contraire à la vérité, c'est pas personnel. Vous agissez alors comme un animal. Qu'est-ce qu'il y a de plus personnel en nous? Est-ce la recherche de la vérité ou l'amitié? Je ne fais pas de comparaison entre les deux. Les deux doivent faire le personnel. Tout acte personnel est une recherche de la vérité. Tout acte personnel doit me permettre d'aimer plus. Donc n'opposez pas. Celui qui opposerait recherche de la vérité et l'amitié, ce ne serait pas personnel. Opposer en moi la recherche de la vérité et l'amour personnel, ça prouve qu'il y a en moi quelque chose d'erroné. Je les distingue, mais ce ne sont pas deux réalités qui s'opposent. La recherche de la vérité me permet d'aimer plus. Quand je suis dans l'erreur, tôt ou tard, cet amour se retournera et ce ne sera plus l'amour, ce sera la haine. Oui. Donc, l'amour d'amitié exige une recherche de vérité. La recherche de la vérité étant plus profonde, plus radicale, mon amitié est conditionnée par la recherche de la vérité. Ça arrive constamment qu'au fond, on dit à quelqu'un « tu seras mon ami ». Et puis, quelque temps après, on s'aperçoit que c'est un voleur. Qu'est-ce que vous dites alors ? Vous êtes obligé de dire, mon cher ami, je croyais que tu cherchais la vérité. Et je vois que tu ne cherches pas du tout la vérité. Et que tu es pris par des erreurs. Donc si tu ne changes pas, l'amitié s'arrête. On s'est trompé. Ça arrive constamment dans la vie, hélas. Vous avez pris pour ami un voleur. Alors, très bien, vous acceptez au début d'être volé, pas grand-chose. Mais quand ça se répète indéfiniment, vous dites « assez ». Il y a quelque chose en toi qui n'est pas juste. Tu es un voleur. Et tu me l'avais très bien caché. Ah, ça, tu es très astucieux. Je reconnais ça. Je ne l'avais pas vu. Mais vous n'allez pas avoir pour amitié un voleur comme voleur. Non. Vous ne pouvez avoir comme ami que quelqu'un qui cherche la vérité. Quelqu'un qui cherche la vérité autrement que vous. Vous pouvez très bien dire, on va être ami. Et je te dirai que tu cherches la vérité autrement que moi. Mais tu cherches la vérité par une autre voie. Il y a des sentiers qu'on croit être plus rapides et qui sont beaucoup moins rapides. On s'en aperçoit au bout d'un certain temps. Et quand on s'en aperçoit, on a le courage de revenir sur ses pas pour prendre une autre route. Dans la vie, c'est constamment comme ça. Donc, vous voyez, ce qu'est de plus radical, c'est la recherche de la vérité. La recherche de la vérité est là pour permettre que l'amitié soit vraie. Des amis ne peuvent être amis que s'ils recherchent ensemble la vérité. Vous avez ce privilège d'avoir compris que c'était nécessaire de chercher la vérité, que c'était essentiel. Pouvez-vous encore être l'ami de quelqu'un qui ne cherche pas la vérité? Vous voyez par là, fait même, que la recherche de la vérité est fondamentale. Que l'amour n'est pas premier. Il y a des personnes qui disent ça, je t'aime, romantiquement. Tu es un voleur, ça se peut, mais je t'aime, j'aime le voleur que tu es. Alors on se laisse voler jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut maintenir une amitié entre voleurs ou avec un voleur? Non. Après avoir pris tous vos biens, il prendra même votre âme. Vous voyez, et ça, c'est, je dirais, la réflexion que nous faisons. Est-ce que l'intelligence est quelque chose de plus radical que la volonté? C'est pour ça que je prends l'autonomie, l'intelligence et la volonté comme trois éléments qui se tiennent, c'est sûr, mais il y a un ordre.